France Inter.
Club.
Go.
Et c'est go pour Côté Club. Alors bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Marion, c'est Marion Guilbeault. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques pour votre session live quotidienne. Côté Club, le meilleur de la scène française, vous donne rendez-vous chaque jour à podcaster, à télécharger, à réécouter. Tout nous va. Ce soir, Orange Blossom et Anno Haro sont nos invités. Bienvenue à vous tous, parce qu'ils sont très nombreux.
Merci.
Merci.
Orange Blossom, c'est un nouvel et quatrième album, Spells from the Drunken Sirens. Un voyage entre la Turquie, le Mali, le Sénégal, l'Égypte et Cuba pour une musique de tous les mondes et de toutes les langues sur une base électro et bien sûr au centre, la voix des femmes. Pour vous, Anno Haro, c'est le troisième album bleu en créole réunionnais, rythme maloya travaillé de façon très personnelle pour chanter des textes militants au bord du poétique. Et pour vous, Marion ?
Je vais profiter de la présence excitante et exotique de nos invités pour ouvrir quelques dossiers SM. Calmez-vous, SM, c'est comme scène musicale. Rendez-vous vers 22h30.
Voilà, c'est la grosse déception de la soirée. Vous pouvez fermer le poste, c'est fini. Côté Club, c'est ouvert, non, entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre d'ailleurs avec Delgrès. Le groupe était en live lors de leur dernier passage dans Côté Club. Une super session. Le son Radio France avec ce Walking Alone, rien que pour nous.
I'm walking alone, yeah. Moi qui a levé le matin, moi qui a pris un café en moins, il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je peux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, ne te retourne pas. Elle m'avait dit, je serai près de toi, mais quand je regarde autour de moi, personne, non. And I'm walking alone, yes I'm walking alone, je marche seul, que le bruit de mes pas. And I'm walking alone, yes I'm walking alone. Descendant dans la villa, pour mon pas qu'à calculer moins, mon café petit affaire en moins, toutes celles. Alors moi qu'à penser à où, est-ce vous aussi ou qu'à vivre ça, est-ce vous aussi ou qu'à sentir où, toutes celles. Elle m'avait dit, le monde est ton pays, elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, ne t'en fais pas pour moi, non, non. Elle m'avait dit, je serai près de toi, mais quand je regarde autour de moi, où je marche seul, où je marche seul, que le bruit de mes pas. And I'm walking alone, yes I'm walking alone, je marche seul, que le bruit de mes pas. And I'm walking alone, yes I'm walking alone, que le bruit de mes pas.
Delgrès en live, ça se passait ici au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques où sont réunis ce soir Carlos Robles Arenas d'Orange Blossom et Anno Haro. Est-ce que vous vous connaissiez l'un l'une l'autre avant d'entrer dans le studio ? Le passage en loge, ça ne compte pas.
Non.
Et alors, présentation. Anno Haro, autrice, compositrice, interprète, troisième album bleu, on va en parler dans quelques instants, une des voix les plus inspirées en créole réunionnais. Anno Haro, je vous présente Carlos Robles Arenas, le compositeur et le boss d'Orange Blossom, une formation ethnopop, en tout cas ethnopop, c'est comme ça que vous vous définissiez à l'époque, dans les premiers entretiens. Une formation qui n'a cessé d'évoluer d'ailleurs, de changer depuis 1993. Vous étiez arrivé 2 ans plus tard, hein, 95. Le premier album, 2 ans plus tard encore, 97. Le dernier, c'était il y a 10 ans. Vous signez donc le 4e album. 10 ans, c'est beaucoup. Alors, je sais qu'il y a eu les tournées, il y a eu le confinement, les voyages pour mettre au point ce nouvel album. Mais quand même, 10 ans, c'est beaucoup. Il se passe pas mal de choses en 10 ans. Est-ce que vous auriez pu penser, à un moment donné, arrêter la formation, passer à autre chose, garder la musique, mais dans une autre direction ?
Non, pas du tout, c'est écologique, on est en décroissance.
Ah, c'est la décroissance.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est un programme politique, en fait.
Voilà,
un album dans les 10 ans, c'est pour préserver la planète.
Voilà, tout à fait. On tourne énormément.
Dans le monde entier.
Et la création, enfin, quand ça prend énormément de temps, et comme on a voyagé, on est allé en Égypte, en Turquie.
On va faire tout le voyage ensemble.
Voilà, c'est ça, ça prend du temps, ouais.
Quels sont les derniers pays, en termes de tournée, que vous avez fait? Pas pour travailler l'album, mais sur la tournée.
Ah, c'était la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ouais.
Vous allez vraiment partout.
Et là, on n'est pas trop dans la décroissance, hein. Faut prendre l'avion, tout ça.
Voilà.
J'ai cassé l'ambiance.
Mais c'est pour le. Ouais. Ouais, y a pas
d'excuses. C'est pour la bonne cause.
Bien fait pour ma gueule. Vous avez raison.
17 ans ont passé depuis le premier album. Je voudrais qu'on écoute le son des tout débuts. On est en 97. Et maintenant, le son d'aujourd'hui en 2024. Robles Arenas, comment on fait évoluer le son depuis 1997?
En se mettant toujours on refait pas du tout la même chose, quoi. On fait vieillir l'ADN, on va dire.
Ouais.
On a dit, on fait vieillir, voilà. On évolue, qu'on se consacre entièrement sa vie à faire ce qu'on aime, quoi. Et coûte qui coûte, quoi.
Tout de suite, on part en live. 2 titres pour Orange Blossom, le nouvel album. Il est question de sirène avec une voix de femme. Elle est derrière nous. Tout de suite, en live pour Côté Club.
كل الناس يلي غوى حب نفسه
Click. Premier titre de la session live ce soir d'Orange Blossom. On poursuit, on enchaîne les garçons et les filles. Deuxième titre. Et bien
et
voilà,
ça fait cut.
Et ça fait
bravo.
Cut, Orange Blossom en live pour Côté Club. La session sera bien sûr disponible sur le site de l'émission et ça vaut le coup. Alors, ben, je vais donner le nom de tout le monde. À la batterie, le chef, Carlos Robles Arenas. Léo Guérin à la guitare, Maria Hassan au chant, Fatoma Dembélé aux percussions. Et au violon, Catherine Lara. Non, Pierre-Jean Chabot, l'historique.
T'as pas les mêmes cheveux.
Un historique, un membre, bien sûr, d'Orange Blossom. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne O'Haraud ?
C'est magnifique.
Pour ce nouvel album d'Orange Blossom, il y a une carte de voyage. Ça commence par la Turquie, puis direction le Caire, ensuite le Mali, le Sénégal. Là, je me suis laissé dire que ça n'avait pas été facile, plutôt même dangereux, avec tir de Kalachnikov sur le bus. Mais manifestement, vous vous en êtes sorti. Et enfin, Cuba. Et vous avez une histoire avec ce pays. Vous y avez fait vos études en 94, il y a 40 ans. Quel type d'études vous avez fait à Cuba ? Vous qui venez du Mexique, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'étais étudié la batterie-percussion, la musique, quoi. Batterie-percussion à La Havane, quoi.
Il y a une façon particulière de jouer la percussion, la batterie à Cuba ?
Ah ouais, ouais. C'est on va dire, pour moi, c'est une des... Ouais, c'est la modernité de l'Afrique, on va dire. C'est la musique africaine interprétée en Amérique latine différemment. Il y a une évolution vis-à-vis de la musique occidentale, il y avait l'espagnol. Il y a un apprentissage qu'il y a eu aussi grâce au mélange russe. C'est qu'un mélange, il y a plein de mélanges. Et après, il y avait eu le chinois communiste et tout ça. Et du coup, il y a eu la méthode russe qui l'ont mélangé avec la musique traditionnelle yéyoluba. Et du coup, ils ont écrit la musique, donc ils ont fait un mélange.
Ça vous convient parfaitement.
Et c'est génial parce qu'en fin de compte, ils enseignent super, super bien. Ça joue toute la journée la musique. La musique, c'est... Enfin, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, mais tellement il y a la musique, ça soulage vraiment, quoi. Je pense qu'en France, ils ont créé, c'était vraiment des musiciens pour, voilà, partout pour...
Vous avez un programme politique, en plus.
Ouais.
En plus d'être écologique, vous avez un programme politique.
Ouais, je joue à droit.
Vous êtes basé à Nantes, vous êtes d'origine mexicaine. Quel lien vous entretenez toujours avec le Mexique?
Bah, ma mère, mon frère, ouais, toute ma famille, ouais, et au Mexique, ouais.
Donc vous y retournez régulièrement?
Bah, là, ça fait 6 ans que je n'ai pas retourné. Ma mère, elle est fâchée.
Vous avez déjà joué avec Orange Blossom au Mexique?
Non, jamais. C'est un des pays où on n'a pas joué. Ouais.
Ah, bah, mais pour quelle raison?
Bah, je sais pas, ils sont moitié cons, les Mexicains.
Bah, votre mère va être ravie si elle vous écoute ce soir. Vous restez avec nous. Deux rendez-vous dans quelques instants. Marion Guilbeault et ses fameux dossiers SM. Puis ce sera donc vous, Anne O'Haraud. Que du meilleur sur France Inter. Meilleur, c'est un des titres de Eden Beach Club, le nouvel et troisième album de Laurent Barden, en duo avec Jeanne Haddad dans Côté Club.
Je... Beauté.
Meilleur, c'est signé Laurent Barden avec Jeanne Hadid. Et la meilleure d'entre nous, c'est qui? Marion Guilbeault.
Côté club, les dossiers SM.
Sur France Inter.
Et un gros dossier SM à ouvrir ce soir, c'est le rapport annuel du SNEP. Le SNEP, c'est le syndicat des éditeurs phonographiques. En gros, c'est le syndicat des maisons de disques. Et tous les ans, cette instance revient sur la santé de l'industrie musicale en France. Beaucoup de chiffres dans ce rapport. Je vais essayer de vous rendre ça un peu sexy. Alors, comment il va le marché de la musique en France? Bien ou bien? Eh bien, il est entre les deux. En 2023, le secteur musical a généré 968 millions d'euros de chiffre d'affaires et a progressé de 5,1%. C'est un marché qui est en hausse depuis 7 ans. Alors, sur ces 968 millions d'euros, 620 millions, c'est-à-dire les trois quarts, proviennent du numérique, c'est-à-dire le streaming, contre 195 millions pour le physique, c'est-à-dire CD, vinyle. Et ça, ça séduit principalement les moins de 35 ans. Le reste, c'est ce qu'on appelle la synchronisation, la musique des films, des séries, des publicités, des jeux vidéo, etc. et les droits voisins. Mais derrière ce constat satisfaisant, entre guillemets, le SNEP note que le CA de 2023 atteint tout juste 53% du niveau historique de 2002.
Quelles en sont les causes alors?
Eh bien, c'est le streaming par abonnement qui ne décolle pas selon les chiffres dévoilés mardi. La croissance numérique est en retard en France, comparé aux autres marchés mondiaux. La progression de 10% des revenus du streaming par abonnement reste trop faible pour nourrir pleinement le développement du marché, alors que c'est la première source de création de valeur. La France recense ainsi 12 millions d'abonnements avec un taux de pénétration de 16% pour l'abonnement payant. Et ça, c'est un des taux les plus faibles au monde. En comparaison, en Allemagne, le taux de pénétration, il est de 17,5%, de 26,5% au Royaume-Uni et de 30,1% aux États-Unis. Alors, pour la PDG de Sony Music France, Marianne Robert, le streaming par abonnement est un enjeu de pédagogie, notamment dans les zones rurales. Bah oui, il semblerait que passer le périph, on aurait du mal à payer pour écouter de la musique. Pour le SNEP, le développement du streaming payant est un enjeu de taille dans un contexte inflationniste. En effet, Spotify France a annoncé une augmentation prochaine de son abonnement premium en réponse à la taxe de streaming du gouvernement. Une taxe très mal vue par le SNEP qui a à nouveau commenté le marché du streaming payant est en retard et la dernière chose à faire, c'était de le taxer. Mais la principale concurrence du streaming musical payant, ce sont avant tout les offres cinéma, audiovisuel et le sport. Quand on paye déjà pour Netflix, Amazon Prime ou encore une chaîne de sport, pas évident de rajouter un abonnement payant à une plateforme de streaming musical.
Est-ce qu'il y a d'autres batailles à mener selon ce fameux SNEP?
Oui, celle qui s'est engagée avec TikTok, à savoir la bataille contre les usages de plus en plus volatiles de la musique, de plus en plus concentrés sur des formules de vidéos très courtes, comme sur la plateforme chinoise. Le syndicat s'est fait un plaisir de rappeler que la popularité de TikTok s'appuie sur la musique qui nourrit 85% de ses contenus, sans pour autant la rémunérer à son juste prix. Et de préciser que ces vidéos courtes, qui avaient au départ créé une nouvelle source de visibilité et de découverte pour les artistes émergents, captaient et détournaient désormais l'attention des fans des services de streaming audio. Et comme je vous le disais ici même il y a une semaine, Universal, une des majors adhérentes du SNEP est en train de supprimer son catalogue sur TikTok. Alors, est-ce qu'elle va être suivie par les autres maisons de disques? C'est à suivre.
Est-ce que vous avez une bonne nouvelle pour en finir?
Mais oui, Laurent, le SNEP salue la dynamique et les succès de la production musicale française avec 17 productions hexagonales dans les 20 meilleures ventes d'albums en France en 2023. Avec une mention spéciale au rap, au hip-hop, au R&B, avec les disques de Wernois, de Hamza et de Nino. Dans ce top 20, une seule femme apparaît et c'est
Ayana Kamoura.
Bien sûr, seule femme donc présente dans les 20 premières places pour un projet solo en France pour les ventes en 2023. Alexandre Lache, le directeur du SNEP, a conclu, Ayana Kamoura est dans le top des ventes de 46 pays, pas seulement en France. Et c'est un instrument de soft power français et les polémiques indignes n'y changeront rien. Et ça, c'était sous les applaudissements des 200 représentants de la filière musicale française. Et c'est une façon de clouer le bec à ceux qui, comme l'extrême droite, jugent la franco-malienne, pressentie pour chanter en ouverture des JO de Paris 2024, illégitime pour cette exposition mondiale. Oh, dja, dja. Je suis pas ta gâte, non, dja, dja, non. Y'a pas moyen, dja, dja, ouais. En cas sur la baby, tu t'aides ça. Il y a y a beaucoup de chiffres dans ces rapports annuels du SNEP, mais aussi des questions essentielles. De votre côté, Orange Blossom et Anne O'Haraud, vous continuez à sortir vos disques en vinyle, en CD. Pour quel genre de public, selon vous? Alors qu'aujourd'hui, tout le monde stream.
Oui,
en payant
alors,
pas, hein.
C'est vrai que ça devient quand même compliqué de produire des CD et tout ça. Principalement pour le public des concerts, parce qu'ils sont friands de ces objets physiques. Quand même, il y a un attachement aussi d'une certaine partie de la population, quand même un militantisme même, pour soutenir, parce que ça reste aussi une des principales façons de générer de l'argent, finalement.
Encore un peu, oui.
Encore un peu, bien que là, ce soit de plus en plus à perte au niveau de l'objet physique,
oui,
et le CD.
De la fabrication,
voilà, c'est de plus en plus difficile. Mais c'est vrai qu'on commence aussi à penser à d'autres façons de faire, à mixer des choses. Mais ça reste un acte militant de dire on va le sortir en physique parce que c'est une façon aussi d'écouter la musique et d'aller contre le titre à tout prix, le single. Pour un artiste qui installe un discours, une musique qu'il a construit sur... C'est pensé comme un livre, c'est comme si on achetait un
la couverture.
Livre, puis, voilà, ouais. On s'arrête à la couverture ou on arrache une page au milieu et puis on la juge là-dessus, quoi. C'est un peu ingrat aussi.
Pareil pour vous, Orange Blossom.
Ah, pour nous, c'est évident qu'il faut qu'il y ait un objet, quand même.
Ouais.
Par contre, je pense que ce qui est le problème aujourd'hui pour nous, les artistes, c'est que maintenant, c'est plutôt les maisons de disques qui n'ont pas de moyens maintenant pour les produire. Nous, on est ravis de le faire, quoi. Ouais. Maintenant, ils disent que maintenant, ça va finir l'album. Il paraît que ça va rester un truc des vieux. Donc, à un moment donné, on ne sait pas, en plus, avec la transition écologique, énergétique, on ne sait pas s'il n'y a plus d'énergie. Quand on va se passer, peut-être on va revenir au Deutsche Grammophon, ça serait génial.
Oui.
Ne rêvez pas quand même, rêvez pas.
Si, et juste si. Une question, vous avez vous-même un abonnement payant pour une plateforme musicale?
Moi,
non,
oui, j'ai Cobus.
Vous achetez des CD.
Et
Anne
des vinyles.
Ouais.
Moi, je suis chez Cobus pour la qualité audio et j'achète de temps en temps des vinyles, ouais. Parce que j'ai plus de platine.
Bienvenue au club.
Côté.
Il y a même de la musique.
Club.
Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Va danser.
Laurent Goumard.
Orange Blossom et Anne O'Haraud sont les invités côté club ce soir. Anne O'Haraud avec son troisième album, Bleu. Cette couleur, vous l'associez à quoi ou à qui, Anne O'Haraud?
Bleu, c'est des souvenirs un peu... Alors c'est paradoxal parce que c'est pas du tout bleu dans ma tête, c'est plutôt blanc. En fait, c'est associé à une sorte de ouate et puis des espèces de pastels, une odeur de caoutchouc, un peu de l'enfance, quoi. Il y a quelque chose de l'enfance et quelque chose de à la fois de paysage et d'intime, c'est-à-dire dans tous les sens possibles de ce bleu. Il y a l'ecchymose, il y a la mer, il y a le ciel, il y a toutes sortes de choses qui sont voilà. Donc
c'est vrai que le spectre est large, hein, entre l'ecchymose que vous avez dit en premier et la mer que vous avez dit en dernier. Il y a tout un programme. On va écouter un premier titre. In utero militari, de quoi est-il question dans ce titre militant?
Il est question d'une guerre plutôt intérieure, on va dire, d'une guerre intestine entre des besoins viscéraux de crier quelque chose et puis le besoin d'avancer dans les discours. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre exprimer une parole nécessaire, le faire en criant et tout, et puis pousser la réflexion pour trouver des solutions et puis comprendre ce qui se passe et du coup se documenter, travailler sur le sujet, le mettre sur la table et approfondir les choses.
De leurs yeux perçant tout le mort des mises en biais.
In Utero Militari, c'est un titre extrait de ce troisième album Bleu à Noaro. Une réaction peut-être, Carlos Robles Arenas, vous qui aimez les voix de femmes, comme on l'entend dans Orange Blossom, là vous êtes servi parce qu'en plus, elle a une voix, non, elle en a plusieurs à Noaro dans le titre.
Ah, j'ai bien trippé, ouais. Ouais. C'est assez, c'est marrant, ça, c'est original, assez cinématographique un peu. Et c'est vrai, le titre est parfait, quoi. Et ce que tu as dit, l'expression, un sentiment exprimé. Et en plus, on trouve le côté réunionnais, traditionnel.
Ouais, un tout petit peu.
Un tout petit peu.
Ouais, je trouve ça super. Et
vous connaissez La Réunion?
Ouais, un petit peu, très peu, ouais. Mais un petit peu, ouais.
Vous avez joué?
Ouais.
Il y a des instruments qui vous inspirent plus particulièrement?
Ouais, carrément, ouais. Les percussions, j'adorais, et la façon de chanter, c'est très traditionnel, et c'est très, très, très beau, et bravo, je connaissais pas, c'est une belle découverte, merci.
À Noaro, le premier album date de 2018, il portait votre nom, c'était une carte d'identité, un album fort remarqué, en créole, remarqué parce que vous y chantiez la violence, l'inceste. Comment cet album a été entendu? Est-ce qu'il a suscité des débats, des prises de parole, de positions, lors même des concerts, j'imagine?
Alors pendant les concerts, on a eu beaucoup de concerts très vite en métropole. et un peu dans le monde, un peu en Australie, en Tasmanie, enfin on a fait quelques endroits, mais principalement en Europe. Donc très rapidement, on est sorti pour jouer cet album-là. Et les réactions du public français, en tout cas européen, enfin, je passais beaucoup de temps à recueillir des témoignages. Les gens venaient pleurer, venaient me voir. Donc, je voyais qu'ils avaient l'espace, en fait, de se projeter, en fait, totalement. Parce que comme ils ne comprennent pas la langue, ils projettent, eux, leur propre vécu. Et c'était très fort. Donc, on prenait beaucoup de temps à la fin des concerts pour ce lien-là particulier.
Et pour ceux qui comprennent la langue, c'est-à-dire donc les réunionnais, comment ça s'est passé?
Alors, en fait, c'est quand même de la poésie. Donc, il faut y revenir pour le comprendre. Donc, ils font pas tous cet effort.
D'accord.
Mais il y a eu un retour. On m'a dit que c'était bien, mais assez rapidement, on m'a demandé de montrer que j'allais mieux. C'est-à-dire que la question qui revenait, c'était quand est-ce que tu sors un autre album et est-ce que tu vas passer à autre chose, c'est ça. Est-ce que voilà. Et du coup, j'avais un espèce de dilemme comme ça de me dire est-ce que absolument il faut que je continue à parler de ça par militantisme parce que du coup ça devenait un enjeu. Le thème du prochain album, est-ce qu'il faut que j'aille contre l'injonction, en fait? Ou alors, est-ce que, justement, je fais le truc, je tourne le dos et tout ça? Et en fait, j'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le deuxième album, j'ai repris certains textes et mélodies du premier, et puis j'ai joué au dé, je me suis mis des contraintes et tout, mais c'est la matière, en fait, la matière du premier s'est transformée dans le deuxième album, c'est-à-dire que j'ai utilisé les textes et mélodies en les mettant à l'envers, en jouant avec les trucs en jouant avec les codes, c'est exactement ce qu'on fait dans un processus aussi de réappropriation de soi, de son intégrité physique, de comprendre son histoire, de la rejouer, de la nuancer, de fluidifier en fait le trauma pour que ça devienne matière et que ça devienne un jeu et qu'on fasse finalement de la musique et que voilà, qu'on puisse se relever quoi.
Quel rapport vous entretenez-vous avec le français que vous maîtrisez parfaitement? D'ailleurs, vous êtes né en France, donc
j'ai pas passé beaucoup de temps,
mais ensuite vous êtes donc reparti à La Réunion.
Oui.
Quel rapport vous entretenez avec cette langue? Et je pose la question à une artiste qui a posé frontalement sur scène les questions de la décolonisation,
oui,
et du racisme. Le français, oui, pour vous, ça représente quoi?
Alors, le français, pour moi, j'ai été fille de fonctionnaire, donc, chez nous, dans la génération dans laquelle j'ai grandi, alors, il y avait un fossé générationnel, c'est-à-dire que les grands-parents continuaient à parler créole, et nous, on ne l'entendait plus parce qu'on était dans des écoles, par exemple, pour la plupart, privées, catholiques et tout, et du coup, c'était mal vu de parler créole. Il fallait s'élever, se blanchir un peu. Donc, la langue créole, ça a été vraiment une démarche de se la réapproprier une fois jeune adulte, parce que je l'entendais, mais elle était devenue une langue de la punition. C'est-à-dire que je l'entendais quand les parents étaient fâchés, quand on se prenait des coups, quand ça n'allait pas. Ça devenait une langue vraiment de la honte et de la violence. Et il fallait que je retrouve des mots d'amour là-dedans. Il fallait que j'arrive à la parler avec un côté qui dise tout ce que moi je traverse et qui témoigne de ce rapport particulier au monde et aux choses. Et du coup, j'ai appris la langue française. J'ai appris aussi à beaucoup l'aimer. J'adore cette langue. J'adore le créole aussi. Et je travaille toujours en adaptant. Que je commence à écrire en français ou en créole, j'adapte toujours systématiquement mes textes dans l'autre langue parce que ça me permet d'évaluer parce que dans une langue on a un point de vue et j'ai remarqué que sur le même sujet, le même texte que j'adapte moi-même, je n'ai pas le même point de vue. Et par exemple, j'ai écrit un dialogue poétique sur l'inceste,
oui,
et entre un père et sa fille, et je fais parler mon père qui est mort donc sur ce qu'il a fait. Et en créole, il y a que la colère, la douleur, on la ressent très très viscéralement, très très directement. Alors qu'en français, il y a presque une notion de pardon qui n'existe absolument pas en créole. Enfin, plus on a de langues, plus on a d'outils pour se comprendre soi-même. Parce qu'on ne peut pas toujours tout exprimer dans la même langue ou dans la même façon de penser. Ce sont des filtres qui nous permettent d'ouvrir en fait nos façons, nos réflexions.
À ce sujet, je lisais dans un entretien que vous aviez mené qu'il n'y aurait pas beaucoup de mots féminins en créole.
Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une langue qui n'est pas genrée forcément. Donc c'est aussi un biais, c'est un peu biaisé de dire qu'il y a... c'est sûr que ceux qui sont identifiés, ce ne sont pas des mots très valorisants. Par exemple, il y a la honte, les choses comme ça.
Ça, mais c'est féminin, voilà.
C'est féminin, mais c'est parce que le créole ne genre pas beaucoup. en fait.
Il n'y a pas beaucoup de féminin.
Voilà.
La musique à la base que vous travaillez, c'est le maloya. Mais oui. Là encore, vous vous l'appropriez avec un rythme très particulier. Comment vous pourriez définir ce travail que vous menez sur cette musique traditionnelle ?
Eh bien, au départ, quand on a commencé, moi j'ai toujours entendu le rythme du maloya sous ce que je faisais. Je chante en créole et le maloya est une musique militante et une musique de rassemblement. Une musique qui permet de faire, de faire société. Parce que c'est là où on va soit faire des cérémonies, des choses comme ça, ou alors venir pleurer que le voisin ou le patron était méchant, ou que, et tout le monde reprend. C'est une musique de cœur, on répète ce que le lead il dit, on va le répéter pour l'aider à se décharger en fait. Et c'est une musique de la transe et de l'endurance aussi, parce que les rouleurs ils se relaient, c'est une musique qui ne doit pas s'arrêter et qui est intimement liée à la danse. Donc c'est très physique. Il y a peu de femmes qui lead des groupes de maloya. Il y en a eu des exceptionnelles, il y en a eu quand même, mais il y en a quand même un peu moins. Du coup, mon rapport à ça, c'est que donc je l'entendais ce rythme-là, j'en avais besoin parce que ça traduisait en fait ce militantisme, ce besoin que cette parole sur l'inceste soit reprise aussi par d'autres,
par
qu'elle soit
autres,
reprise
ouais.
par le cœur, que la société s'en empare. Donc c'était indissociable pour moi de ce que je chantais. Et de toute façon, quand je chante en créole, je le sens, même si je suis a cappella, il y a le rythme. Il pourrait reprendre n'importe où le rouleur, il serait dessus. Mais j'ai eu du mal à convaincre des musiciens.
C'est ça qui est intéressant. Pour quelle raison ? Mais oui, parce que le rythme est quand même très travaillé, de façon étrange pour eux, j'imagine.
Oui, parce que mes placements sont différents. Mes placements sur la musique sont très différents. J'entends le maloya, les placements sont ok, mais c'est ma façon d'être roubato sur une musique très cadrée, de sortir en fait du cadre. Parce que j'ai besoin de la contrainte, mais j'en ai besoin pour pouvoir en sortir, pour pouvoir choisir en fait. Et cette parole qui n'a pas de cadre, qui est une parole de la confusion, de l'intime, de la désintégration quelque part. Il faut reconstituer une parole, donc il faut redéfinir des cadres. Donc j'ai choisi le cadre du maloya, mais j'étais obligée d'en sortir pour dire ces choses-là. Et mon ressenti, c'est une culture à part l'inceste, et elle a ses propres codes. Du coup, c'était compliqué pour des maloyeurs en fait, d'entendre ce que je proposais. Et il a fallu qu'on construise, avec Philippe Conrad, qui me suit depuis le début, qui est mon producteur, il a fallu qu'on construise un entourage pour qui était prêt à entendre cette musique. C'est pour ça qu'on est allé très vite vers des musiciens expérimentaux, des musiciens, par exemple du Surnatural Orchestra. On s'est entouré de jazzman parce qu'au départ ils étaient les seuls à capter ce qu'on leur demandait. Alors il y avait aussi on a pris une valeur sûre du rouleur et de la percussion réunionnaise pour garder le rythme, mais ça a été important, cet entourage là dès le départ.
Alors je voudrais qu'on écoute justement le titre qui donne son nom à l'album, c'est Bleu. Est instrumental.
Oui.
Donc il se passe de paroles.
Oui.
C'est le titre aussi de l'album. On entend du trombone ?
Du trombone, le piano, puis le rouleur, voilà.
Donc, le piano, c'est vous ?
Le piano, c'est moi.
Pour la première fois ?
Je peux vous en parler, je peux vous en parler.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'était un... l'enjeu de cet album, c'était aussi de travailler ce rapport particulier au piano, c'est-à-dire que j'ai appris en autodidacte un peu le piano quand j'étais enfant, et c'était un instrument qui me permettait moi de travailler sur mes propres émotions, parce que j'ai grandi dans un milieu un peu violent et incestueux, et il fallait que je trouve un espace où exprimer quelque chose, ne pas devenir une roche quoi, ne pas brider sans arrêt ce que je ressens et être un soldat. Parce que c'est un peu... J'ai été formatée pour répondre à des besoins sexuels qui ne sont pas censés... Voilà, bref. Et j'avais besoin de garder cet espace-là de l'intime, en fait. Donc ce morceau, principalement, me servait juste à pleurer. Donc c'est la possibilité, en fait, avant le cri, ce que j'ai réussi à exprimer dans le premier album, c'était... Tout était construit autour du texte et de la voix. Et là, tout d'un coup, c'est revenir un peu à la racine de tout ça, c'est d'accepter la fragilité avec lequel on retrouve ce lien à un instrument qui nous a permis de s'exprimer, d'être là avant la voix, d'être là avant qu'on puisse identifier même les problèmes, les choses, juste d'être purement dans l'émotion. C'est pour ça qu'on a, j'ai très peu travaillé je voulais qu'on sente la fragilité de même parfois ça a été des choix de mettre les trucs un peu en décalé, de pas être sur le temps, d'être un peu de sentir cette fragilité à arriver. À devenir parce que c'est nécessaire pour c'est la cassure, la fêlure, la craque dans le ciment qui fait qu'il y a la fleur qui va pousser et qu'on puisse faire traverser la lumière, quoi.
Traverser la lumière, ce sera le mot de la fin. Merci à Noah Rowe. On va se quitter avec Stéphane Milošević. C'est un de nos coups de cœur dans Côté Club, notre flirt à la frontière sur France Inter.
Embrasse l'inconnu, aspire à la poussière, inspire-toi de la vue. Franchis la rivière, flic à mort, voyou habitué. C'est je suis dresseur de tort depuis toujours que ça me nique la vue. Toi et moi comme calice et corolle, à genoux, je suis comme sous quand tu bois mes paroles. Alors bois, gère en permanence aux frontières de la Gaule. Les deux mains sur le capot, moi je suis bordeur pas drôle. Ha, flirte à la frontière, embrasse l'inconnu. Pas encore un peu de sable à me vendre. Non, non, j'ai pas sommeil, j'en peux plus d'attendre. Dis-moi, s'il te plaît, encore combien de temps sur le dos du serpent. Hier, à jouer du lasso au chasseur de Mustang. Aujourd'hui, la flûte de Pan et demain de la sarbacane. Les deux mains en l'air, je veux les voir qui planent. Bouge plus, la loi de l'attraction, c'est moi. Tu vois. Flirte à la frontière, embrasse l'inconnu. Lucrèce, Lucrèce, mon miroir. Mon Géronimo, enfume-moi. Mais en attendant le marchand de ça, t'es mon Panzer chocolat. Lucrèce, Lucrèce, mon amour. Tu es gérant la nuit maudite jour. Mes paroles, alors bois, gère en permanence aux frontières de la Gaule. Les deux mains sur le guidon, moi je suis bordeur pas drôle. Flirte à la frontière, embrasse l'inconnu. Je suis le cas, la cava, je suis le cavalier noir de ta rue. Ouvre grand si tu veux me voir, mais qu'est-ce t'as cru? Si j'entre ici, abandonne tout espoir. Flirte à la frontière. Embrasse l'inconnu, Lucrèce, mon miroir, mon Géronimo, enfume-moi. En attendant le marchand de sable, t'es mon Panzer chocolat. Lucrèce, Lucrèce, mon amour, tu es gérant la nuit maudite jour. Alors en attendant le marchand de sable, t'es mon Panzer chocolat. Sous le plafond de nuages, ça flaire la volante. Marchand de poussière, un marchand de sang. Mon chat n'a pas encore un peu de sable à me vendre. Oh Vénus, sous Vésuve, je veux plus partir. À la villa des mystères, de tes vendeuses de souvenirs. Je suis voyant la nuit, je suis fakir le jour. Souffle encore un souffle pour le fils de l'amour. Oh Vénus, sous Vésuve, je veux plus partir. Je suis fakir le jour, souffle encore un souffle pour le fils de l'amour. Souffle encore un
pour le fils de l'amour.
Côté club, et bien voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Carlos Robles Arenas. Merci à vous. Le nouvel album d'Orange Blossom pour titre Spells from the Drunken Sirens, et vous serez en concert demain à Lille, le 4 avril à Brigny, le 18 à Nantes, le 23 mai à Alône, le 24 à Volvic. Plein de dates avec un rendez-vous à noter le 21 janvier 2025, Paris, La Cigale. Merci à Noaro.
Merci.
L'album, c'est bleu, c'est la couleur, avec là aussi des rendez-vous sur scène. Le 17 mars à Dunkerque, à la Halle au Sucre. Le 19 à Guyancourt, à la Batterie. Le 21 à Tourcoing, au Grand Mix. Et le 23 à Aubusson, c'est la scène nationale. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Et Natinha, vamos lá, vamos dançar.
Tout le monde saute dans le studio, manifestement demain ce sera la bamboche avec Pépi J, côté clubbing avec Diogo Strauss. Je remercie toute l'équipe de Côté Club, son réalisateur c'est Stéphane Le Guenec. À la réalisation ce soir, le duo Adèle Caglar, Benjamin Wagon, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, c'est le trouple qui signe la programmation. Enfin aux playlists, Valentine Chedebois, Côté Club, on ferme. Bonne fin de soirée, alors à demain.
Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui, il y avait même de la musique.
Bye.
Bye.